Merci de suivre ce point de vue de l'actualité de la mi-journée, les titres. La présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, au centre d'une rencontre hier entre Charlotte Mayuma-Kella, la représentante de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, et Henri Colombédier, le président du PDC-RDA. Promotion du système de transport intelligent en Côte d'Ivoire, Amadou Koné, le ministre ivoirien des Transports, était le mardi dernier dans les locaux du centre de gestion intégrée de la mobilité situé dans la commune de Trècheville. On en parle dans cette édition. Hors de Côte d'Ivoire, l'Algérie se réveille sans Bouteflika pour la première fois en 20 ans. Dernière articulation de ce 12 heures, l'invité de la rédaction pour parler donc de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, Christian Bouquet, répondra aux questions de Soura Adam. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous et bienvenue. L'Union africaine souhaite que la Côte d'Ivoire organise une élection présidentielle paisible l'année prochaine, en 2020. C'est la substance du message délivré hier par la représentante spéciale de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, Charlotte Mayuma-Kella, qui a échangé avec le président du PDC-RDA, Henri Colombédier. Selon la diplomate, la rencontre a servi de cadre pour échanger sur la situation politique actuelle en Côte d'Ivoire. Et cette visite s'inscrit dans le cadre de la mission de l'UA qui entend accompagner les pays membres à travailler pour la consolidation de la paix ainsi que la stabilité du continent. Après le président du PDC-RDA, Charlotte Mayuma-Kella entend rencontrer également les acteurs politiques et les membres de la société civile de Côte d'Ivoire, a-t-elle indiqué. On poursuit donc ce journal pour parler aussi des audiences du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, qui a échangé hier avec des parlementaires venus du Gabon et donc de la France. On suit le compte-rendu de Jean-Claude Mabéa.
C'est le groupe parlementaire d'amitié France-Côte d'Ivoire, conduit par la députée des Yvelines, Marie Lebec, qui a été reçue en premier ce mardi en début d'après-midi par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Marie Lebec, à sa sortie d'audience.
C'était un moment important pour nous, puisque après trois décennies sans relations parlementaires entre la France et la Côte d'Ivoire, du fait des relations très fortes entre les différents présidents, nous renouons aujourd'hui avec ces relations parlementaires et donc nous avons réaffirmé au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire notre volonté de pérenniser ces relations dans le temps. C'est quelque chose auquel très peu de parlementaires français avaient certainement eu la chance d'assister et ça nous a permis aussi de voir qu'il y avait un certain nombre de similitudes entre nos deux assemblées. Même si nous avons beaucoup plus de parlementaires en France, on voit bien que le fonctionnement est le même et ça nous permet effectivement d'envisager une coopération approfondie, de pouvoir comparer nos méthodes de travail, notamment dans le fait de faire la loi, mais aussi dans le contrôle de l'action du gouvernement.
Le président de l'Assemblée nationale a ensuite échangé avec le président du réseau africain des personnels des parlements, Brice Paya.
Monsieur le président de l'Assemblée nationale a bien voulu nous recevoir. Nous lui avons présenté cette structure qui vise le renforcement des capacités opérationnelles des administrations parlementaires africaines. Pour l'instant, c'est une association qui regroupe 18 pays d'Afrique francophone. Abidjan, accueillant le siège de ce réseau, monsieur le président, nous a promis qu'il ferait tout dans la limite des moyens disponibles pour soutenir les activités de ce réseau.
Signalons que les hôtes du président de l'Assemblée nationale ont pris part à l'ouverture officielle de la session parlementaire qui a eu lieu 24 heures avant.
Jean-Claude Mabé, en l'instant, qui était hier donc dans les couloirs du Parlement, donc ivoirien, l'Assemblée nationale, première chambre donc du Parlement ivoirien. Engagement pour la paix et la cohésion sociale, c'est la décision que prend le Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire et qui était en séminaire les 30 et 31 mars dernier à Grand Bassam. Et cette rencontre des directeurs de publication a porté sur le thème suivant: les directeurs de publication face aux défis de l'information apaisée. Retour sur certaines décisions arrêtées lors de cette rencontre avec Charles Lambert Trabi. Il est le président du Forum de PCI et donc le Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire.
Nous avons estimé qu'il était bon que ceux-là même qui ont en charge le contenu des journaux, ceux-là même qui guident donc les journaux, de se retrouver à une formation afin d'apprendre comment écrire dans le sens de l'apaisement dans notre pays. C'est pour nous notre façon de dire aux directeurs de publication de Côte d'Ivoire et à l'ensemble des journalistes qu'on peut écrire tout, mais avec des termes apaisés. On peut écrire tout, mais avec un sens de la responsabilité. De sorte à ne pas mettre de l'huile, comme on le dit, sur le feu. Parce que depuis longtemps, les journalistes ont donné des vies en Côte d'Ivoire comme ceux-là même qui mettaient de l'huile sur le feu. Nous voulons donc former nos d'autres états de publication, à l'effet d'être utile à l'information apaisée, dont le pays a besoin véritablement. Et donc, les 30 et 31 mars dernier, nous avons donc organisé ce séminaire-là à l'intention donc de tous les directeurs de publication de Côte d'Ivoire qui avaient pour thème les directeurs de publication face au défi de l'information apaisée. Et les échanges ont été fructueux et je pense que cette formation peut avoir des effets positifs sur nos écrits aujourd'hui. Nous souhaitons que les effets de cette formation soient immédiats. La plupart, on va dire, de nos journaux sont adossés à des partis politiques. On peut être adossé à un parti politique et faire le journalisme, faire son travail de façon responsable et professionnelle. Nous insistons sur le thème de façon responsable et professionnelle. On peut vendre un journal avec ça, sans forcément détruire le pays.
Voilà à propos de Charles Lambert Trabi, le président du Forum DPCI. Le Forum DPCI, c'est le forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire. Et parlons de la lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. Les plaintes contre les crimes numériques ont augmenté de 58% par rapport aux années antérieures, ce qui équivaut à 2860 plaintes pour un préjudice de plus de 5 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort notamment du rapport de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, rapport présenté lundi dernier dans les locaux de l'autorité de régulation des technologies de l'information et de la communication, la RTCI. Kwame Philippe est le directeur de la confiance numérique, la sécurité des réseaux et systèmes d'information à la RTCI. Nous l'avons joint pour des précisions sur ce sujet.
La RTCI a signé une convention depuis 2011 avec la Direction Générale de la Police Nationale qui crée la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, en abrégé PLCC. Donc depuis 2011, on a commencé une lutte conjointe contre la cybercriminalité. Ce qu'on peut retenir, c'est que aujourd'hui, les chiffres au niveau de la cybercriminalité sont en baisse. Mais en même temps, les déclarations d'actes de cybercriminalité sont en hausse au niveau de la PLCC. Pour la simple et bonne raison que les populations ont pris confiance en la plateforme de la lutte contre la cybercriminalité et donc sont beaucoup plus aptes à aller dénoncer les actes de cybercriminalité dont elles sont victimes. Alors selon les rapports, on parle d'une augmentation d'à peu près 58% par rapport à 2011.
À combien est évalué donc le préjudice en référence à ce pourcentage que vous relevez?
On a parlé de 5 milliards à peu près en termes de préjudice.
Si cette action est menée et qu'il y a une certaine baisse, pourquoi ces cybercriminels réussissent toujours donc à gruger les populations?
C'est la mésinformation et la part du gain.
Voilà, c'était les propos de Kwame Philippe. Il est le directeur de la confiance numérique, la sécurité des réseaux et systèmes d'information à l'ARTCI, l'autorité donc de régulation des technologies de l'information et de la communication. Suivons ce journal pour parler de promotion d'un système de transport dit intelligent. Le ministre des Transports a visité hier mardi, en fin de soirée, le centre de gestion intégré de la mobilité installé dans la commune de Trècheville. Et selon le ministre Amadou Koné, après le projet pilote, la sécurité routière par vidéo-verbalisation va bientôt s'étendre sur toute la ville d'Abidjan et l'intérieur du pays. Et cette visite au centre du système de gestion vise donc à peaufiner ce projet. On l'écoute.
Il y a un mois, le gouvernement a adopté une communication en conseil de ministres sur le système de transport intelligent. Il s'agit pour nous d'avoir un volet de vidéo-verbalisation pour assurer davantage la sécurité routière et la discipline sur nos routes, le respect du code de la route. Donc nous avons estimé au niveau du gouvernement qu'il fallait un système pour suivre et gérer tout cela sans qu'il y ait d'intervention humaine en tant que telle. Vous avez constaté certainement dans la ville d'Abidjan qu'il y a une nouvelle génération de caméras et de vidéos que nous avons commencé à installer dans la ville. Je suis très heureux de constater que ces équipements marchent bien et que nous sommes capables aujourd'hui, tout en restant ici, de surveiller la circulation, de repérer ceux qui ne respectent pas donc le code de la route, de leur envoyer des messages. Et comme nous allons passer bientôt dans la phase d'extension à grande échelle sur Abidjan et ensuite sur l'intérieur du pays, donc il était important que je vienne faire le point avec les équipes vous avez dû constater que nous sommes aussi en train de tester du matériel mobile, de nouveaux véhicules, de nouvelles motos qui sont équipées de matériel capable donc de surveiller en course la circulation et de verbaliser les mauvais conducteurs sur nos routes. D'ici la fin de l'année, le système devrait être totalement donc opérationnel.
Amadou Koné, ministre ivoirien des Transports, en l'instant, autre structure ministérielle, le ministère de l'Éducation nationale, dont une délégation accompagnée de ses partenaires a fait une visite terrain à Soumaoro Dougou, village situé à 5 km de Tioui. Et nous sommes donc dans le sud-ouest, notamment dans la zone de San Pedro. Et cela pour se rendre compte de l'évolution de la phase pilote du PEC. Le PEC, c'est un projet d'enseignement ciblé qui est expérimenté depuis 3 mois dans ce village situé dans une zone productrice de cacao. Kofi Benson, notre correspondant dans le bassin Zandra, était de la visite, suivant son compte-rendu.
Le PEC, le projet d'enseignement ciblé, est le fruit des chercheurs indiens pour l'amélioration de l'éducation des enfants. Et l'expérimenté en Côte d'Ivoire vise à donner une réponse à la qualité de l'apprentissage, selon Sabrina Vigani, coordonnatrice du programme TREC, entendez transformer l'éducation dans les communautés de cacao.
Nous avons aujourd'hui un problème au niveau de la qualité de l'éducation. Les enfants vont à l'école, mais ils n'apprennent pas, ils ne sont pas au niveau qu'ils sont censés être. On a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes à lire ne serait-ce qu'un mot. Et donc, nous avons décidé de nous attaquer à ce défi-là en particulier.
Quelques caractéristiques du PEC avec Nda Félix, conseiller pédagogique du préscolaire et scolaire à Tui.
Toutes les activités que nous menons sont à base de jeux. Quand l'enseignement se fait à partir de jeux, ça permet à l'enfant de s'intéresser à ce qu'on fait.
Pour Brahima Kourouma, coordonnateur général de l'inspection générale de l'éducation nationale, le constat fait est rassurant.
Je suis émerveillé de voir d'abord à deux niveaux qu'il y a beaucoup de progrès réalisés. Les enfants qu'on a réunis, CE1, CE2, CM1 confondus et qui lisent aussi parfaitement des textes. Je ne suis pas contenté de regarder les textes que l'enseignant présentait. Je suis allé proposer moi-même un autre texte pour vérifier s'ils savent lire. Et ils l'ont lu. Quand les enfants ne savent pas faire les mathématiques, c'est parce qu'ils ne savent pas lire. C'est parce que ce qu'ils lisent, ils ne comprennent pas. Et dès le moment où ils sauront lire et écrire, ils vont mieux comprendre les mathématiques. C'est lié.
Kofi Benson, de retour de Tui, Radio de la Paix.
Précaution à prendre dans cette période de pluie qui s'annonce donc, période où il faut faire attention afin d'éviter les drames et les dégâts matériels pendant cette saison des pluies. Le ministère de l'assainissement et de la salubrité et l'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD, ont dans un communiqué invité l'ensemble des populations vivant sur le territoire national à adopter des bons gestes. Sur ce sujet, voici les conseils du président de l'ONG Initiative pour le développement durable, Amara Karamoko.
D'abord, il faut déjà penser à couper l'électricité et n'utiliser aucun matériel électrique. Ne pas permettre aux enfants de sortir, surtout quand ils sont seuls. Il ne faut pas utiliser des voitures dans des zones inondées. Il faut mettre les papiers importants à l'abri, fermer les poubelles et les sacs et les mettre en hauteur, mettre à l'abri surtout les produits chimiques, les produits d'entretien et les médicaments qui sont susceptibles donc de contamination et de pollution. Ensuite, nous avons les souris et les rats qui fuient l'eau, il ne faut pas les toucher, éviter de boire l'eau du robinet et privilégier donc les bouteilles d'eau minérale. Nous avons des caniveaux qui sont bouchés et les causes sont multiples et on les connaît. La construction des habitations sur les canalisations, nous demandons à l'État et aux collectivités locales de prendre les responsabilités, c'est-à-dire déjà énumérer toutes ces zones-là où il faut donc curer les caniveaux et passer à l'action avant que la saison de pluie ne commence. Nous demandons aux personnes qui habitent les zones à risque d'évacuer la zone en fonction des prévisions météo. Nous leur demandons également de sensibiliser leurs voisins et proches à le faire, de se mettre en sécurité et de porter secours seulement si les conditions y sont favorables pour ne pas eux-mêmes se mettre en danger.
Voilà, conseil d'Amara Karamoko, il est donc le président de l'ONG Initiative pour le développement durable. Et donc, conseil en cette période des pluies qui s'annonce. On poursuit ce journal et dans le reste du monde, Algérie précisément, après un mois de contestation, les Algériens se sont réveillés ce jour pour la première fois en 20 ans sans Abdelaziz Bouteflika à la tête du pays. Mais la joie passée n'ont-on pas baissé la garde et ces populations veulent désormais obtenir le départ de tout le système au pouvoir. Il faut rappeler que le chef de l'État algérien de 82 ans aurait tenté de s'accrocher au pouvoir face à un mouvement populaire inédit, mais il a démissionné hier mardi, le soir. C'était le soir, quelques heures après avoir été défié par l'armée. Et par rapport à cette situation, donc en Algérie, la Russie a appelé ce mercredi à une transition sans ingérence de pays tiers. En Algérie, au lendemain de la démission donc du président Abdelaziz Bouteflika, confronté à une contestation populaire inédite. Paix au Soudan du Sud, les leaders de ce pays sont attendus la semaine prochaine au Vatican. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi le Saint-Siège dans un communiqué. L'invité de la rédaction pour refermer cette édition et nous recevons aujourd'hui un analyste politique spécialiste des questions africaines. C'est un observateur averti donc de la scène politique ivoirienne. Il s'agit du professeur Christian Bouquet qui se prononce sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Il répond ici aux questions de Sour Adams.
Bonjour, professeur Christian Bouquet.
Bonjour, monsieur Sour Adams.
Au quotidien, vous observez l'arène politique de la Côte d'Ivoire. Que vous inspire cette arène en termes d'ambiance aujourd'hui?
Eh bien, comme vous le dites, je suis un observateur extérieur. Je regarde l'arène politique ivoirienne de la même manière que je regarde les arènes politiques de certains autres pays, Madagascar, le Mali, le Tchad, le Niger, des pays où je vais souvent. Sur la Côte d'Ivoire, mon impression première, c'est que une forme de recomposition politique semble se mettre en place avec un éparpillement des forces et la possibilité de voir une opposition croissante aux partis au pouvoir. Ça, c'est sur le fond et sur la forme, parce que je crois que c'est sur la forme que vous m'interrogez davantage. Je dirais que moi aussi, je suis étonné de voir ces interventions politiques, ces déclarations, ces discours, ces attaques qui sont là encore essentiellement sur la forme et non pas sur le fond, alors qu'on serait probablement plus prêt à attendre des propositions de programme sur ce que on doit faire pour la Côte d'Ivoire, et en particulier propositions de programme émanant de l'opposition, puisque le parti au pouvoir lui montre ce qu'il est capable de faire et ce qu'il a fait depuis bientôt 10 ans.
Côté de l'ancienne coalition au pouvoir, il y a de plus en plus de tensions entre ce qu'on pourrait appeler le camp Soro et le camp RHDP. Selon vous, le divorce est-il totalement consommé entre Guillaume Soro et ses alliés d'hier?
Dans ce genre de coalition, les mariages et les divorces ne sont jamais totalement consommés. Il n'y a jamais de position figée définitivement. On entend surtout des attaques émanant du camp Soro parce que probablement il y a des communicants qui sont plus offensifs, qui se font davantage entendre parce qu'il est très présent sur les réseaux sociaux. Pour autant, nous, en particulier moi qui suis un analyste politique, je n'arrive pas à mesurer le poids exact que ça peut représenter dans l'électorat. Or, pour le moment, c'est bien dans la perspective d'une élection, celle de 2020, que l'on se place. On ne peut pas tirer de conclusion dans une ambiance préélectorale, et en particulier tant qu'on ne sait pas comment pourront se recomposer les différentes forces dans cette arène politique, comme vous dites.
En ce qui concerne le débat autour de la commission électorale indépendante, la CEI, réforme pour certains, recomposition pour d'autres. Le point de vue du professeur Christian Bouquet.
En principe, une démocratie mature n'a pas besoin de commission électorale indépendante parce que les organisations politiques d'une part et les citoyens d'autre part sont parfaitement conscients de la manière dont fonctionne cette démocratie. Il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, on a depuis presque une vingtaine d'années mis en place une commission électorale qui n'inspire jamais confiance. Alors qu'elle soit mise en place par un camp ou par un autre, elle n'inspirera jamais confiance. Donc je crois qu'il faudrait se sortir de cette idée selon laquelle c'est la commission électorale qui dit les résultats et qui fait les résultats, parce que c'est pas vrai, hein. Ce sont les citoyens par leur vote qui font les résultats. Et je crois qu'il faudrait presque partir d'une idée un petit peu innovante, mais qui est celle selon laquelle chaque électeur est une commission électorale à lui tout seul, puisqu'il peut vérifier en restant toute la journée dans son bureau de vote la régularité des opérations, d'une part. Il peut ensuite vérifier les comptages et les résultats du soir et les procès-verbaux. Il peut même les photographier avec son smartphone s'il le souhaite. Et le jour où la commission publiera les résultats officiels, contrôler que ceux qui concernent son bureau de vote correspondent à ce que publie la commission électorale.
Professeur Christian Bouquet, il y a eu cette rencontre avortée entre Laurent Gbagbo et Pascal Afinguesson. Est-ce que l'unité du parti reste possible?
Vous savez que c'est extrêmement compliqué dans un parti politique de déterminer une ligne et de s'y tenir. Il y a toujours forcément des oppositions internes qui peuvent soit s'organiser en courant interne sans menacer l'intégrité du parti, soit faire sécession. Donc là, on ne sait pas quel est le positionnement exact de M. Afinguesson et de la tendance plus dure du parti de Laurent Gbagbo.
Pour la Côte d'Ivoire et pour 2020, quels seraient vos souhaits?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fonctionnement de la démocratie africaine en général et donc ivoirienne en particulier. Et je continue à rester sur ma faim parce que cette démocratie ne semble pas fonctionner comme on le souhaiterait, faute de sérénité. On en revient à ce que vous disiez au tout début. L'arène politique est très agitée, probablement trop agitée.
Et qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Que chacun retrouve ses esprits et se mette à travailler sur le fond, donc sur des programmes, sur des objectifs et non pas sur des attaques à hominem.
Je vous remercie, professeur Christian Bouquet.
Je vous en prie.
Dernière articulation de ce 12h sur Radio de la Paix, c'était en l'instant l'invité de la rédaction avec Christian Bouquet, analyste politique français, qui se prononçait sur la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Il répondait aux questions de Soura Adams. Fin de ce journal de 12h, le rappel des titres. La présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire au centre d'une rencontre hier à Abidjan-Cocody entre Charlotte Mayumakala, la représentante de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, et Henri Colombédé, président du PDC-RDA. Promotion du système de transport intelligent dans le pays. Amadou Koné, le ministre ivoirien des Transports, était le mardi dernier dans les locaux du centre de gestion intégrée de la mobilité situé dans la commune de Trècheville. Et cela en prélude au lancement national du projet de la sécurité routière par vidéo-verbalisation. Algérie, le pays se réveille sans Bouteflika pour la première fois en 20 ans. Merci de votre attention. La suite, c'est avec donc Brokona Bertin pour la revue de presse de ce jour. Et vous pourrez suivre donc d'autres informations à 15h. Ce sera un flash d'informations.
Présidentielle 2020.